Action.
Il n'est pas toujours facile d'être un homme, moins encore d'être un homme pur. Mais être pur, c'est retrouver cette patrie de l'âme où devient sensible la parenté du monde, où les coups du sang rejoignent les pulsations violentes du soleil de 2 heures.
Un extrait de Noces d'Albert Camus pour ouvrir le rendez-vous ce soir sur France Culture. En direct, il sera question de De Gaulle, de Tonton François, de Salut les copains, de Rentemplant, de Ténia, de Mante religieuse poivrotte, de Carreau islamique et même de Pierre Le Tan avec Frédéric Mitterrand qui signe Une adolescence 1958-1969, 11 ans de la vie de Frédéric Mitterrand, partagé entre sa double admiration pour De Gaulle et François Mitterrand. Benoît Lagan.
Et pour celui qui n'a pas oublié ses passions de jeunesse, c'est l'occasion de poursuivre une œuvre autobiographique et littéraire qui retrouve la langue de l'enfance.
19h30, la session live du vendredi avec ce soir programme Mozart avec le quatuor Cambini Paris sur une proposition de Lucille Como.
Oui, une session viennoise ce soir avec le quatuor à cordes Cambini Paris. Ils sont en direct dans le studio. Ils joueront le troisième mouvement du quatuor numéro 19 en ut majeur de Mozart.
Plateau Sciences Naturelles avec Umberto Pasti qui publie Le Bonheur du Crapaud, un recueil de fables pour cet écrivain collectionneur et jardinier, Manu Farine.
9 contes italo-marocains où s'envisage une mante religieuse ivre de limoncello, une souris à jambes de bois, des iris vengeurs et pour conclure un concert charnel de grenouilles.
Mais d'abord c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfez.
La France a le plus beau réseau de libraires au monde. C'est pas par hasard, c'est qu'il y a un choix collectif qui a été fait en 1981 avec la loi Lang.
Ouais, mais ça va continuer.
Qui est d'interdire. Mais vous savez, alors il y a un consensus absolu en France. Grands éditeurs, petits, moyens, libraires, pouvoir public autour de la loi Lang. Donc il n'y a aucun risque qu'elle soit bousculée.
Non, mais sur le métier, sur le maintien des librairies dans les villes.
Bien sûr que ça va continuer. Il y a des facteurs négatifs, comme la hausse des loyers de centre-ville, qui parfois sont très pénalisants. Il y a un facteur de fond très positif, c'est qu'il y a vraiment ce consensus très fort. On souhaite tous que le réseau de librairies soit défendu et soit pérenne.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et pour une fois, il est du jour.
Il est du jour, il est tout frais du matin contrairement à moi qui le suis peu. Vous entendez donc Arnaud Nourry, PDG de Hachette, mastodonte de l'édition française mais aussi mondiale, invité donc ce matin de France Inter, de Patrick Cohen, qui vous l'entendiez se dit très optimiste sur le sort des petites librairies françaises. Et pourtant, La Pure, l'atelier parisien d'urbanisme, a opéré il y a quelques mois son recensement des petits commerces de la capitale. Bonne nouvelle. Il y en a 62 000, c'est une densité spectaculaire par rapport à beaucoup d'autres grandes villes comme Londres par exemple. Mauvaise nouvelle, les commerces de loisirs stagnent depuis 10 ans. Très mauvaise nouvelle, le nombre de librairies a chuté de 10% depuis le dernier recensement qui a eu lieu en 2011. 83 librairies ont fermé à Paris, c'est un chiffre assez impressionnant. Mais je le rappelle, donc évidemment la France garde toujours de loin le maillage le plus dense de librairies au monde. Alors cette baisse s'explique en grande partie par la montée en puissance du e-commerce et notamment d'Amazon. Et il faut noter aussi que tous les arrondissements ne sont pas touchés de la même manière. Dans les quartiers dits populaires, les librairies résistent plutôt bien, voire se multiplient. Le 5e et 6e arrondissement de Paris reste encore assez protégé.
Même si la une va fermer.
Il y a quelques cas emblématiques comme ça qui, malheureusement...
Merci Zoé Sfez, on se retrouve lundi pour la poursuite de ce journal de la culture, mais le vendredi ça se poursuit avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour ouvrir, eh bien, c'est la séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et cette semaine, l'actualité des séries, Laurent, c'était la diffusion mardi dernier du premier épisode de la toute dernière série d'ABC, American Crime, une nouvelle série dramatique visible sur Canal+, 6 jours après sa diffusion aux États-Unis. Et American Crime est une série prometteuse qui met en scène différentes communautés ethniques d'une ville de Californie, des communautés confrontées à un crime raciste. Extrait. 911, please,
for a medical. I don't know if this is a home invasion, but my neighbors are pretty much, they look like they're dead.
Can I get you to stand up for me, please?
Why?
You're under arrest for murder.
I didn't kill you. Bobby! No.
Alors cette série, Laurent, est écrite par John Ridley, le scénariste de 12 Years a Slave, hein, vous saviez, le film oscarisé de Steve McQueen. Et son originalité tient à son approche de l'affaire criminelle qui suit parallèlement et équitablement. Pendant une dizaine d'épisodes, l'enquête, mais aussi son traitement médiatique, ainsi que les réactions des familles, des victimes et des accusés.
Et alors, qui avez-vous contacté pour nous en parler ?
Eh bien, j'ai mis sur le coup ma correspondante américaine, l'universitaire Séverine Barthes, spécialiste de séries télé. Elle est installée à San Francisco et elle a regardé pour nous, jeudi 5 mars dernier, la soirée d'ABC, soit Scandale, centrée sur une équipe de communicants, puis American Crime, une soirée qui prenait une dimension particulière dans un contexte singulier, celui des débats et des manifestations antiracistes de l'après Ferguson. Explication.
Ce qui est très intéressant, c'est que juste avant American Crime était diffusé Scandale, comme tous les jeudis, et que l'épisode qui précédait juste le pilote d'American Crime prenait en charge aussi une storyline sur Ferguson, on va dire au sens large, ou sur les relations interraciales. Il faut voir aussi que ce jeu sur l'actualité, il y a aussi un aspect marketing ou politique des chaînes. C'est-à-dire que parler de ce dont parle actuellement le public, c'est aussi, d'une certaine manière, assurer une audience. C'est s'assurer que le public ne va pas décrocher puisque l'épisode lui-même va renvoyer à des sentiments profonds du public actuellement.
Mais à part la dimension marketing, quelle est la contribution de ces séries télé au débat politique ?
Eh bien, difficile à dire pour l'instant pour American Crime, qui vient juste de débuter. Mais pour répondre à cette question, Séverine Barthes revient sur une autre grande série, The Good Wife, une série judiciaire qui a elle aussi construit un épisode entièrement en écho à l'affaire Ferguson sur CBS il y a tout juste 2 mois.
L'épisode est sorti la semaine où la Cour suprême et le grand jury ont confirmé qu'ils ne poursuivraient pas le policier qui est coupable d'avoir tué le jeune homme à Ferguson. Et The Good Wife est la seule des séries dont on parle ici qui a explicitement prononcé le mot Ferguson. Puisque dans American Crime ou dans Scandal, on fait référence à Ferguson sans jamais le citer. Et il y avait un carton au début de l'épisode disant que l'épisode avait été écrit et filmé avant la décision du grand jury et que toutes les mentions de Ferguson dans l'épisode se référait à août 2014. Puisque cet épisode réinvente Ferguson d'une certaine manière, il y a des émeutes dans l'épisode de The Good Wife parce qu'un noir a été abattu par la police et que le grand jury l'a reconnu non coupable et ne va pas le poursuivre. Est-ce qu'il faut embaucher plus de noirs au niveau du state attorney pour que la justice reflète davantage la société et que donc le racisme s'efface ? Ou faut-il au contraire non pas faire de l'affirmative action, mais de la pure méritocratie et prendre les meilleurs state attorneys possibles, quelle que soit leur couleur, parce que s'ils sont bons, il n'y aura plus d'erreurs stratégiques faites dans la défense et donc on n'aura plus ce genre de décision qui est fondée sur une erreur légale. Tout ce débat-là se retrouve dans l'épisode. D'une certaine manière, cet épisode me semble davantage mettre en avant la réalité des problèmes et des solutions possibles et fait plus avancer le débat que Scandale, évidemment. Et pour American Crime, il faudra attendre de voir tous les épisodes pour le dire.
Alors, pour vous faire une idée, il faudra attendre la diffusion française de l'excellente série The Good Wife d'ici quelques mois sur Teva puis Sister. Enfin, notez qu'American Crime est diffusé comme Scandale sur la chaîne Canal Plus Série une semaine après leurs diffusions américaines.
On enchaîne tout de suite avec votre revue de presse de l'actualité culture et média de la semaine passée. Lundi, c'était Monoprix.
Oui, en écho au son du jour de Zoé Sfès, si l'on en croit le quotidien Le Progrès, un supermarché devrait venir prendre la place d'une librairie dans le cœur de Lyon. Plusieurs rumeurs circulaient à Lyon sur l'avenir du site de l'ancienne librairie Chapitre. Or, selon le journal lyonnais de lundi, un permis de construire a été déposé par la société Monoprix pour réaménager au local, donc au 19 place Bellecour, soit l'adresse de la librairie Flammarion qui avait remplacé Chapitre après la fermeture de ses portes en février 2014.
Mardi, c'était mission saisie.
Oui, selon le quotidien marocain Al-Masail, la police marocaine a fait une découverte plutôt insolite la semaine dernière et relayée mardi dans différents journaux en France. Les forces de l'ordre marocains ont découvert, en effet, dans un réseau de tunnels abandonnés, des armes et de la drogue. Une information qui s'autodétruira dans 5 secondes. Ces sous-sols avaient été abandonnés après le tournage du film Mission Impossible 5.
Jeudi, c'était Bernard pour la Marseillaise et le Ravi.
Hier soir à Marseille, le chanteur Bernard Lavillier répondait aux questions des journalistes à l'occasion d'un concert de soutien au quotidien La Marseillaise, journal placé en redressement judiciaire. Bernard Lavillier a déclaré à l'AFP « La Marseillaise est un journal que je connais et j'ai beaucoup chanté dans leurs fêtes dans les années 80. Il faisait beaucoup de fêtes un peu partout en Provence. Une quinzaine d'autres artistes originaires de Marseille et de la région étaient sur scène aux côtés de Bernard Lavillier. Et vendredi, donc ce soir, un second concert de soutien est organisé au Dock des Suds en soutien cette fois-ci au journal satirique local Le Ravi.
Et aujourd'hui, c'est vendredi.
Eh bien, aujourd'hui, vendredi, retour sur Cesare Battisti, l'écrivain italien condamné à la perpétuité par contumace pour deux homicides commis dans le cadre de d'actes de terrorisme à la fin des années 70 et de nouveau dans l'actualité. En exil au Brésil depuis 11 ans, une juge fédérale vient d'ordonner son expulsion du pays. L'occasion pour l'AFP de revenir sur son parcours dans une dépêche qui va être relayée sans doute un peu partout ce week-end et de rappeler entre autres les propos de l'écrivain dans un entretien accordé en 2011. Je le cite, « Prétendre changer la société avec des armes, disait-il, c'est une connerie. » Mais enfin, à l'époque, tout le monde avait des flingues, il y avait des guérilleros dans le monde entier. L'Italie vivait une situation pré-révolutionnaire. Cela fait 30 ans que je ne me considère plus comme un militant politique, mais comme quelqu'un qui milite pour la littérature. Fin de citation.
Merci Benoît Lagan. Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Frédéric Mitterrand ?
Moi, je n'ai pas beaucoup de réactions sur l'histoire de Battisti, par exemple. Moi, la seule chose que je sais, c'est que Fred Vargas le défend et que j'ai beaucoup d'estime pour Fred Vargas. Donc, ça me rend très attentif, en tout cas, à toute cette histoire. Mais je n'ai pas de jugement à porter. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser.
Spectateur de séries télévisées ?
Pas beaucoup, non. Je ne regarde pas beaucoup les séries télévisées. J'ai du mal à les... Je regarde un peu sur Internet après, mais je ne suis pas très attentif.
Plutôt cinéma, toujours.
Oui, plutôt cinéma. Ou... Moi, j'aime beaucoup la télévision en direct. J'aime beaucoup les choses qui arrivent comme ça. C'est pour ça que, contrairement à beaucoup de gens, j'ai trouvé que, par exemple, la soirée des Césars était très intéressante. Et que beaucoup de gens pouvaient s'exprimer en direct. Sissako a dit des choses magnifiques. La soirée était montée comme niveau par rapport à d'autres années. Il y a eu un sketch incroyable. Le sketch sur les complotistes. Qui était brillantissime.
Sur le milieu du cinéma, qui serait vendu aux chrétiens, aux juifs et aux
Et aux francs-maçons. C'était très très drôle. La soirée des Césars était le résultat d'un complot international.
La preuve par 666.
Oui, c'était extraordinaire d'intelligence et de brio. Et voilà, moi c'est ça que j'aime à la télévision, c'est quand la télévision redevient un peu sauvage. Je n'arrive pas à m'intéresser durablement aux séries. C'est quand même, il y a eu la série danoise, Borgen, que j'ai trouvée formidable. Et parce qu'elle parlait d'un personnage qui se retrouvait dans le monde politique, peut-être. Et puis parce que c'est une soirée, c'est une série danoise qui n'est peut-être pas calibrée de la même manière, enfin, qui est peut-être plus proche de nous.
Umberto Pasti, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter ?
Moi, je n'ai pas de télévision, donc pour la télévision, je suis assez nul.
Pas de télévision et pas d'ordinateur ?
Non, j'ai un ordinateur.
Ah, ça y est ?
Oui, j'ai un ordinateur. Non, je suis un peu inquiète pour cette histoire des armes au Maroc, mais en même temps, bon, il faudra voir de quoi il s'agit, parce qu'on trouve très souvent des armes au Maroc, et puis en fait, elles n'y sont pas. Donc, il faut voir ce qu'ils ont vraiment trouvé, en fait.
Le rendez-vous.
La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre.
Plateau Jour de Fred avec vous, Frédéric Mitterrand, auteur, réalisateur, ex-ministre de la Culture, un temps animateur de radio et de télévision. Vous signez Une adolescence chez Robert Laffont qui fait suite à La mauvaise vie de 2009, puis La récréation en 2013. C'est donc un nouveau chapitre de votre projet autobiographique. On va y revenir, mais avant, j'aimerais qu'on évoque d'abord avec vous le dessinateur Pierre Le Tan qui signe la couverture de votre récit et qui a collaboré aussi souvent avec vous, Umberto Pasti. Je vous laisse peut-être décrire le dessin qu'il a réalisé pour ce récit, une adolescence.
Eh bien, un enfant qui a l'air un peu interrogatif, qui regarde droit le lecteur, et derrière lui, un portrait du général de Gaulle et un portrait de François Mitterrand dans un intérieur qui a l'air un peu bourgeois. Et puis la signature de Pierre Le Tan, c'est-à-dire un petit coquillage.
Exactement. Cette photo, enfin ce
j'adore
dessin...
J'adore Pierre Le Tan. Pierre Le Tan est un illustrateur absolument admirable, un artiste.
Dessinateur, illustrateur, en effet. Il a commencé au New Yorker très tôt.
Oui, il a commencé, il a eu du succès à l'étranger beaucoup, très vite. Il est peut-être un petit peu moins connu en France, quoique vous, manifestement, vous le connaissez bien et ça fait très plaisir. Et il a beaucoup travaillé avec Patrick Modiano.
Toutes les couvertures des Folios, voilà, c'est oui. Lui.
Et il a un talent absolument merveilleux. Alors, ce qu'il a fait pour Umberto Pasti, c'est admirable. Parce que là, j'ai le livre Jardin, les vrais et les autres, et le récent, le dernier, Le bonheur du crapaud, l'un et l'autre édité chez Flammarion, ce sont des dessins d'une beauté. C'est vraiment, Pierre Le Tin est un artiste extraordinaire.
Comment vous l'avez rencontré? Dans quel cadre?
Je l'ai connu dans mes périodes modianesques, disons. C'était il y a très longtemps, quand je connaissais un peu Umberto... quand je commençais un peu Umberto Modiano, et quand je connaissais un peu Patrick Modiano, où je connaissais assez bien. Et donc Pierre Le Tin était toujours avec lui. Et je me souviens de soirées délirantes où nous regardions ensemble des annuaires de 1952 pour savoir si à 2012-22, il y avait toujours Madame Macha, etc. Et ça nous excitait énormément.
Voilà. Je sais que vous collectionnez ses œuvres, c'est ça?
Je garde tout ce que je peux trouver de Pierre Le Tin. Je garde les petits cartons d'invitation. Et en fait, Pierre Le Tin a une production qui est très importante. Et puis surtout, moi j'ai eu un honneur fantastique, c'est que pour une émission à laquelle je tiens beaucoup dans ma mémoire, en tout cas qui était du côté de chez Fred, c'est lui qui avait dessiné le générique. Et qui avait fait un générique, cette émission qui a duré quand même 3 ans, et c'était un générique qui avait beaucoup impressionné les téléspectateurs. Beaucoup de gens me demandaient qui est ce dessinateur. Et il avait fait un générique absolument merveilleux.
Qu'on revoit encore sur Internet.
Ça passe. Qui est tellement joli. Enfin, vraiment, je sais qu'il y a eu une grande exposition des œuvres de Pierre Le Tin à Madrid, mais je pense qu'il serait temps de la faire à Paris.
Umberto Pasti, comment vous avez connu Pierre Le Tin? Parce que vous partagez avec lui le goût de la collection, on y reviendra, mais comment vous l'avez connu?
J'ai rencontré Pierre il y a très longtemps, à travers des amis, je pense. On avait des amis en commun, et tout le monde nous disait, vous êtes fait pour vous rencontrer, pour vous aimer. Et on s'est rencontrés, on est devenus très très vite copains. Et on a passé aussi beaucoup de soirées à regarder des annuaires, à faire des trucs dans ce genre.
Et c'est un homme délicieux, vous savez, c'est rare les gens délicieux. Tout est charmant, poétique, sympathique. C'est un homme délicieux.
Absolument. Ouais.
En plus d'un grand artiste.
Frédéric Mitterrand, vous signez donc Une adolescence. Vous y faites cette fois le récit de ce passage de l'enfance à l'âge adulte en 11 chapitres qui correspondent aux 11 années qui séparent vos 10 ans de votre majorité. C'était 21 ans à l'époque. Dans l'avant-propos, on apprend que vous aviez déjà écrit ce texte il y a longtemps, que vous l'avez relu, repris au point, écrivez-vous, qu'il est devenu un autre sans en modifier le ton. Quand l'aviez-vous commencé?
Il y avait une ébauche. J'ai fait une ébauche il y a 25 ans. Et cette ébauche a même été publiée, puisque, en vérité, on devait savoir déjà que je m'intéressais beaucoup au général de Gaulle et l'amiral de Gaulle, qui est un homme qui parfaitement respectable, m'avait fait transmettre un certain nombre de photos du général de Gaulle en me demandant de les commenter. Et j'avais fait les légendes. Et en fait, c'était une erreur de casting absolue, parce que, avec mon caractère totalement narcissique, je ne parlais que de moi en regardant les photos. Donc, ce texte a été publié, n'a pas eu beaucoup de succès. J'ai eu le sentiment que j'avais, d'une certaine manière, trahi l'amiral de Gaulle. Et puis, j'ai oublié tout. Et récemment, je suis retombé sur le texte. Il y a un an, je suis retombé sur le texte. Je me suis dit, mais ce texte, quand même, il y a une idée qui est une idée qui m'est chère, parce que je vis toujours avec cette idée, qui est celle de l'enfant qui n'arrive pas à choisir entre le général de Gaulle et son oncle. Et en fait, j'ai toujours pas choisi. Et donc, j'ai tout recommencé et j'ai fait un livre qui avait vraiment beaucoup plus long et qui est un livre.
Benoît. Alors, le récit commence en 1958, finit en 1969, avec en toile de fond donc les 11 ans de gouvernance du général de Gaulle, ce qui fait que votre adolescence est essentiellement centrée sur deux figures politiques autour desquelles il vous a fallu vous situer, donc le général de Gaulle et votre oncle Tonton François. Et vous revenez sur l'essai politique de votre oncle, publié en 1964, Un coup d'État permanent. Vous le trouvez plutôt bien et vous ajoutez avec tout ce qu'il faut de phrases latines pour me laisser penser une fois de plus que le général de Gaulle et Tonton François, c'est finalement le même monde qui continue. Et c'est une idée qui revient régulièrement dans le livre, cette appartenance au même monde. Qu'est-ce que cela vous permet de dire en creux?
d'aujourd'hui et peut-être de la classe politique d'aujourd'hui aussi.
Alors, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que je pense que les Français sont devenus Mitterrando-Gaulliens ou Gaulo-Mitterrandiens, c'est-à-dire associent ces deux personnages d'exception quand même dans une même histoire. Et d'une certaine manière, François Mitterrand, qui était l'adversaire irréductible du général de Gaulle, a été non seulement son héritier, mais presque son fils, puisqu'il a repris les institutions qu'il avait combattues, il a repris tout l'héritage du gaullisme et il l'a poursuivi et peut-être même magnifié. Ils ont d'ailleurs, l'un et l'autre, été au pouvoir longtemps, 10 ans pour l'un, 14 ans pour l'autre. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que il y a une... Dans leur puissance historique, il y a le fait qu'ils viennent de la guerre, tous les deux, de circonstances exceptionnelles, que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous les revivons sans cesse, nous y pensons tout le temps, nous réécrivons sans cesse l'histoire de la guerre, nous nous posons tous la question de savoir ce que nous aurions fait pendant ce temps-là. Donc on est imprégné par la guerre, mais en même temps, quelle que soit cette imprégnation, nous ne saurons jamais ce que ce fut cette expérience. Or, l'un et l'autre viennent de la guerre, très très fortement l'un et l'autre. Bon. Il n'y a pas besoin de rappeler ce qu'a fait le général de Gaulle, et on sait les controverses autour de François Mitterrand, controverses que moi je balaye personnellement, parce que je considère que François Mitterrand a été un résistant d'un très très grand courage à partir de 1943. Et donc tous les deux viennent de la guerre. Donc ça leur donne une étoffe, une puissance considérable, que n'ont pas les politiciens d'aujourd'hui, forcément, puisque on est passé de l'histoire au quotidien. On est passé de la France aux Français. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il faudrait des circonstances exceptionnelles pour qu'on puisse juger si les hommes politiques d'aujourd'hui sont à la mesure des précédents. Or, il se trouve d'ailleurs qu'il y a eu des expériences exceptionnelles. Nicolas Sarkozy a affronté la crise de Lehman Brothers et la crise financière ou la guerre en Géorgie avec beaucoup de courage et beaucoup de résolution. Même ses adversaires le reconnaissent. Quant à François Hollande, il a été, on a bien vu, dans le drame de Charlie Hebdo, il a été tout à fait à la mesure de l'événement. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent les hommes politiques sont nuls, ils ne sont pas à la hauteur, etc. Simplement, les temps ont changé et forcément, on vit avec la nostalgie des temps précédents, surtout que ces temps précédents ont quand même modelé le caractère de notre pays.
Vous évoquez bien sûr les événements qui ont marqué cette décennie, notamment la guerre d'Algérie et les décolonisations. Et pour cela, vous avez choisi de les écrire avec les mots de l'enfance, qui sont pour autant très précis, mais il n'y a pas d'analyse politique a posteriori. En termes de style, qu'est-ce que cela a impliqué? Parce qu'il y a une rupture, on le voit très bien, entre la façon que vous avez d'écrire ce texte-là et l'avant-propos, par exemple, ou même la mauvaise vie ou la récréation.
Ou la fin même du texte.
Ou la fin du texte.
Dans les 10 dernières pages, je raconte une visite à la boisserie et tout d'un coup, c'est de nouveau la manière dont j'écris. Mais il y a des gens qui sont désarçonnés, même quelques-uns mécontents, en disant mais pourquoi vous écrivez comme ça ?
Élision des négations.
Oui, élision des négations. Et ça, c'est
ouais,
élision des négations. Oui. Mais je pense au fond que c'est plus honnête, que c'est vraiment comme ça que je ressentais les choses, et que c'est plus honnête de le raconter comme ça, dans la mesure où ce n'est pas un livre politique, mais c'est un livre sur les sentiments qu'éprouve l'enfant. D'ailleurs, je pense que le style évolue au fur et à mesure qu'on lit le livre. Il s'affirme de plus en plus, enfin il devient de plus en plus construit à partir du moment où on arrive à l'adolescence et finalement à l'âge adulte. Par ailleurs, je pense que c'est assez efficace, parce que je crois que c'est assez drôle il y a un côté affreux Jojo, un peu tendre aussi, et je crois que le livre est drôle. Et certaines des personnes qui même me disent « Oh quand même, c'est dommage que vous écriviez pas du beau français comme autrefois, etc. » et me disent « Mais on a quand même beaucoup ri. »
Je cite par exemple un passage, et pourtant moi je ne suis pas pour l'OAS. Alors là, pour une fois, il y a une négation. Oui. Mais tout de suite après, je peux pas comprendre toute cette violence vis-à-vis du général de Gaulle. Tonton François, il passe son temps à le critiquer, mais il le déteste pas. Enfin, pas comme ça, à l'injurier, à vouloir sa mort. S'il y a quelqu'un qui aime la grandeur de la France, c'est bien le général de Gaulle, et on ne pourra pas m'obliger à penser le contraire. Il n'y a qu'à voir tous les rois et les présidents qui viennent lui rendre visite, et la folie que c'est dans la rue, quand il fait des voyages en province. Il n'arrête pas d'en faire, d'ailleurs, des voyages en province. Et nous, on nous les montre le soir à la télévision, avec des commentaires qui insistent pour dire que c'est formidable. Est-ce qu'il y a eu une jouissance de votre part à retrouver véritablement ce langage de l'enfance, qui n'était pas forcément le vôtre d'ailleurs à l'époque?
Une grande jouissance. Et je dois dire, c'est horrible à dire, une grande facilité. C'est-à-dire que je n'ai pas changé, en fait. je retrouve... Enfin, j'ai forcément changé, puisque j'écris maintenant, en vérité, la plupart du temps, comme dans les dernières pages. Mais je pense que l'impact de l'adolescence et l'impact des sentiments que j'ai éprouvés en ce temps-là est tellement fort que le langage de ce temps-là aussi, je l'ai gardé.
Alors, il est beaucoup question dans votre livre, dans votre récit, de l'image de ces deux hommes, telle qu'elle apparaissait sur le petit écran. Vous qui connaissiez de près François Mitterrand, comment percevez-vous déjà les différences entre l'homme réel et son avatar médiatique, Frédéric Mitterrand ?
Alors, à l'époque du général de Gaulle, il était très maltraité. Il avait l'air d'un repris de justice.
Toujours.
Il avait toujours des...
Mal éclairé, vous
La lumière dans la figure. Il n'y avait pas de prompteur. Il avait toujours l'air d'être parasé. C'est une chose incroyable. Et puis, à cette époque-là, il avait encore ses deux petites canines sur le côté, qui fait qu'il avait vraiment l'air d'un vampire. Il était vraiment maltraité. Tandis que le général de Gaulle était bien éclairé, que manifestement, ça se passait très tranquillement. Voilà, c'était... Il y avait... Le traitement était... Et alors, on disait que François Mitterrand était mauvais à la télévision. Qui aurait pu être bon dans ce genre de circonstances. Et après, quand les choses se sont normalisées, sont devenues plus équilibrées, on s'est aperçu que François Mitterrand avait aussi maîtrisé beaucoup mieux l'instrument de la télévision et qu'il était, comme on le voit à la fin de sa vie, un maître de la communication télévisuelle.
Alors, il n'y a pas que la politique, il y a aussi le cinéma, un refuge pour l'adolescent que vous étiez. D'ailleurs, quel est le cinéma qui vous aura fondé, Frédéric Mitterrand ?
Au bout du bout du bout, le grand cinéma romanesque américain, où j'avais l'impression chaque fois que c'était ma famille. Enfin, Deborah Kerr, dans Tant qu'il y aura des hommes sur la plage, j'ai l'impression que c'est ma mère. Clark Gable, j'ai l'impression que c'est mon père. Enfin, voilà. Je faisais une fixation très très forte. Mais en même temps, il y avait le cinéma italien. Peut-être encore plus que la nouvelle vague française ou les films merveilleux pourtant anglais de cette époque, Look Back and Hunger et toutes ces choses-là. Mais peut-être c'était le cinéma italien parce qu'il y avait une telle liberté avec ce génie incroyable qui était Fellini. Je me rappelle qu'à 13 ans, quand j'ai vu 8 et demi, je me suis dit mais on peut faire ça au cinéma, c'est fantastique.
Vous revenez même sur le tournage d'un film dans lequel vous aviez un rôle assez important, celui de Maurice dans Fortuna d'Alex oui. Joffé avec Bourvil et Michel Morgan. Extrait.
Les voyageurs de Clermont-Ferrand, oui, Montauban, Toulouse.
Le train, c'est comme si on allait en vacances. Tu as été à la mer ?
Non.
T'as jamais vu la mer ?
Non.
Moi, je suis allée sur la Côte d'Azur. C'est chouette. Et la montagne, t'as déjà été ?
Non.
T'as jamais vu une montagne ?
Bah non.
Moi, je suis allée sous les Alpes, à Megève. C'est chouette. Tu sais skier ?
Hein ? Non.
La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France.
T'as gagné.
Moi, je suis née en Angleterre. Tu sais l'anglais ?
Non. Et toi, tu sais combien de départements en France ?
90.
Ouais.
C'est vous qu'on entend avec cette voix,
Frédéric Mitterrand. C'est le sale gosse, vraiment. Le sale gosse. Mais je dois dire que c'était un rôle de composition, parce que j'étais beaucoup plus gentil dans la vie, quand même.
Pourquoi vous n'avez pas continué comme acteur, en fait ?
J'étais mauvais. Je trouve que j'étais un mauvais acteur. Et donc, c'est drôle, je peux faire le bouffon dans des émissions de télévision rigolotes, je peux faire des tas de choses comme ça sans aucune difficulté. Au contraire, j'y prends même du plaisir, ce qu'on me reproche d'ailleurs. Mais bon, je trouve ça amusant. Autant je suis un acteur détestable. Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le ton juste. Et là, dans ce film, je trouve que je suis un mauvais acteur.
Pourquoi vous étiez crédité sous le nom de Frédéric Robert ?
Parce que je ne voulais pas me faire appeler Mitterrand dans ces périodes gaulliennes. Je pensais que ce serait... Enfin, c'était plutôt ma famille qui ne voulait pas.
Et pour être présenté au général de Gaulle, vous avez pris comme pseudonyme Frédéric François ?
Mais oui, parce que tout d'un coup, j'arrive à me glisser dans une manifestation et je suis présenté au général de Gaulle et il me demande comment je m'appelle. C'est une panique épouvantable. Donc, et alors là, c'est le subconscient qui a parlé. Je me suis appelé... C'est l'autre grand amour de ma vie que j'ai sorti. Non, il n'y a pas d'autre solution. Je bredouillais François. Il m'a dit très bien. Et puis, tout le monde s'interrogeait autour de moi pour savoir qui était ce François qui était à Londres, puisque j'étais dans une manifestation d'anciens résistants. Mais voilà, ça a marché.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres.
Françaises, Français,
Voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi!
La raison de ce choix, Frédéric Mitterrand.
Je me rappelle vraiment de l'instant précis où j'étais devant ma télévision avec mon beau-père, le mari de ma mère, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, et il m'a dit « Ah, quand même !» Il m'a dit « Ah, quand même !» Oui, bah c'était des circonstances très très dramatiques. C'était au moment du putsch d'Alger. Et vous sentez à la fois peut-être des raisons de ma fascination. C'est un vieil homme qui parle, sa voix est usée, qui parle un français admirable. C'est extraordinaire. Un français admirable est construit sur des phrases latines. Alors là, les négations, elles y sont. Hein. Mais avec quelque chose de populaire. Il dit « ce qu'elle est ». Il y a des mots qui se carambolent un peu. Et je ne sais pas, c'est une voix à la hauteur de l'événement. Le général de Gaulle qui dit aux Français « aidez-moi ». C'est une formule incroyable. Et en plus, il écrivait tous ces... Il n'avait pas une agence de communication avec trois publicitaires qui refont 10 fois les discours. Non, il écrivait tout de son écriture. Et puis, voilà. Et il y avait cette espèce de... Alors, je suis très, très... Ce n'est pas du tout un livre politique, hein, puisque si on fait la liste des reproches d'ordre politique qu'on peut adresser au général de Gaulle, j'y souscris sans difficulté. Je parle d'autre chose, je parle du lien extraordinaire qu'il pouvait avoir avec un certain nombre de gens en France, et la majorité pendant longtemps, et puis même ceux qui votaient contre lui d'ailleurs, ne pouvaient pas ne pas être impressionnés par le personnage. Puis vous savez, il y a la phrase célèbre, quand on lui demande, quand il revient au pouvoir en 58, est-ce que vous allez attenter aux libertés? Et oui, tout à coup, il sort de ses gonds, il dit « Mais moi, les libertés, c'est moi qui les ai restaurées. Est-ce que c'est à 67 ans qu'on commence une carrière de dictateur ?» Alors, c'est vrai qu'il y a eu un exercice solitaire du pouvoir, et on l'a bien senti dans la manière dont il traitait François Mitterrand, qui d'ailleurs, par ailleurs, se grandissait en l'attaquant, puisque c'était beaucoup mieux d'attaquer le général de Gaulle que Pinet ou l'autre Kerr. Je veux dire, il avait un adversaire qui le grandissait. Bon. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il était un dictateur, contrairement à ce que les gens aient dit. Et il a créé des institutions sur lesquelles nous vivons encore.
Umberto Pasti, peut-être un commentaire à tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a des choses qui font écho à votre propre parcours ?
Non. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient connu M. Mitterrand quand il était très jeune, à Florence. Oui. Et je pensais à ça pendant que vous parliez, parce qu'en fait, il y a un truc qui a un peu changé chez les hommes politiques, je pense. C'est-à-dire, il y avait une tradition de grand humanisme. Je pense, on me parlait de François Mitterrand jeune, qui était un homme très curieux des choses, qui n'était pas dans un domaine politique, qui était surtout dans un domaine littéraire. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, je connais très peu ce monde. Mais j'ai l'impression que la génération actuellement, les spécialisations, font que les gens soient moins des humanistes. Et que ces gens, quelque part, avaient une formation humaniste beaucoup plus poussée, beaucoup plus ample. Ouais, quelque part.
Alors, je souscris absolument à ce que vous dites. Ce qui est fascinant avec François Mitterrand, que j'ai finalement, au fond, beaucoup mieux connu ensuite. Parce que nous, on était les enfants, ça l'ennuyait un petit peu. Bon. C'était son extraordinaire ouverture d'esprit dès qu'il s'agissait d'échanger des idées ou de parler de livres ou de choses comme ça. C'était extraordinaire. Et je ne veux pas en prendre trop sur votre temps, mais regardez les photos de François Mitterrand
toujours
quand il se déplace.
Ouais. Dans les avions, en effet.
Il n'est pas en train de regarder des notes ou des trucs. Il y a toujours un livre à la main. C'est quand même... Et ce n'était pas de la prétention de sa part. Non, c'était naturel, c'était comme ça.
Le rendez-vous, la session.
Frédéric Mitterrand, Umberto Pasti, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la session live.
Une session menuet avec le quatuor Cambini-Paris. Ils sont ce soir en direct dans notre studio. Un ensemble fondé en 2007. Ils ont gravé les grands classiques de leur formation, mais aussi des œuvres de compositeurs français oubliés comme Hyacinthe Jadin ou encore Félicien David. Je vous recommande Félicien David, excellent. Paraît cette année chez Naïve Ambroisie l'intégrale des 6 quatuors à cordes dédiés à Haydn de Mozart. Des pièces composées entre 1782 et 1785. Des grands succès immédiats. On les joue beaucoup à Vienne et à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Mozart les a beaucoup travaillé ses pièces, il était un grand admirateur de Haydn et en 85, il lui envoie ses quatuors en lui écrivant « Je te présente mes 6 fils ». Julien Chauvin et Karine Croquenois sont au violon, Pierre-Éric Nimilovitch est à l'alto, Atsushi Sakai est au violoncelle, il joue sur instruments d'époque et tout de suite, c'est le troisième mouvement du quatuor numéro 19 de Mozart en ut majeur, dit « Les dissonances ». Le quatuor Cambini-Paris, c'est à vous. Paris en direct dans le studio 108, c'était le Menuetto Allegretto, extrait du Quatuor à cordes numéro 19 en ut majeur de Mozart. L'intégrale des 6 quatuors dédiés à Haydn a paru chez Naïve Ambroisie. Ils seront en concert ce samedi et ce dimanche à l'Opéra de Caen, le 18 avril à Limoges et le 19 mai prochain au Musée d'Orsay à Paris. Toutes les autres dates de concert sont sur leur site.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Sciences Naturelles avec vous, Umberto Pasti, écrivain milanais, poète, traducteur, collectionneur, expert en céramique islamique, jardinier à vos heures. Vous publiez Le Bonheur du Crapaud, illustré par des dessins de Pierre Le Tan, on ne va pas y revenir, chez Flammarion. C'est un recueil de 9 fables italo-marocaines qui toutes racontent l'improbable et délicieux amour entre le narrateur et puis d'autres espèces. Ça s'ouvre sur Carolina, une couleuvre buveuse de sirop. Contre l'atout, on trouve aussi un iris vengeur ou voyageur, Darling, qui est une menthe religieuse poivrotte, Naonis, le ténia vorace, Lucas, un faucon mutilé. Qu'est-ce que ce déplacement du sentiment amoureux vous permettait de travailler ?
Est-ce que ce déplacement du sentiment
amoureux, qu'est-ce que ça vous permettait de travailler, en fait ? Qu'est-ce que ça dit, en fait, en creux, de votre rapport aux autres ?
Umberto
Par rapport aux autres personnes, c'est difficile de vous répondre. Un déplacement, il y a toujours un déplacement de... Je n'ai pas bien compris votre question, en fait. Peut-être mon français n'est pas assez bon. Vous me demandez si j'aime les gens. J'aime beaucoup les gens.
Non, c'est pas vrai.
J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les fleurs. Peut-être que je n'ai pas une prédilection pour les gens. C'est-à-dire, j'aime beaucoup de voyager de faire des voyages trans-espèces. C'est-à-dire, j'aime parler avec les fleurs, j'aime les écouter, j'aime parler avec les animaux, les écouter. Et j'adore les conversateurs, j'adore faire la conversation. Mais pas uniquement, disons.
Pour autant, Umberto Pasti, vous terminez quand même la dernière nouvelle en écrivant « Maintenant, je sais pourquoi, depuis ma plus tendre enfance, je préfère la voix des grenouilles à celle des hommes. »
Vous savez, je pense que si on demande 99, c'est-à-dire si on demande aux enfants vraiment s'ils préfèrent la voix de leurs copains ou de grenouilles, les 99% répondraient qu'ils préfèrent la voix de grenouilles. Ça, je pense que ça, c'est universel.
Donc, c'est toujours le livre d'un enfant.
Oui, je pense.
Encore un livre d'enfant. Alors, c'est aussi l'occasion pour vous de revenir sur le Maroc où vous vivez, hein, pour l'essentiel du temps. Vous y décrivez les paysages, la flore, la façon dont elle est malmenée. Qu'est-ce qui vous a amené vers ces paysages-là, Umberto Pasti?
Ce qui m'a amené vers ces paysages-là était leur beauté. Je ne peux pas faire un discours nostalgique ou un discours... Mais le Maroc était vraiment, jusqu'aux années récentes, un pays d'une beauté absolue, merveilleuse. Et c'est vrai que c'est un pays qui est en train de beaucoup souffrir. Et donc, on l'aime encore plus. Parce que c'est un pays qui est très malmené, qui est géré par des technocrates... qui ne savent rien du pays, qui ne sont pas des humanistes, qui ne connaissent pas la culture, qui ne respectent pas la nature du pays. Et c'est un pays qui est en train de souffrir beaucoup, chose qui fait qu'on l'aime encore plus. Et qu'on s'y sent de plus en plus attaché, si vous voulez.
Frédéric Mitterrand, je sais que vous avez lu ce texte et même le précédent. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué?
Le texte précédent, qui est d'ailleurs dans la lignée, qui c'est « Jardin, les vrais et les autres », également aux mêmes éditions Flammarion et avec les dessins de Pierre Le Tan. Mais je trouve ça absolument un livre merveilleux. Quand je le lisais, je pensais à deux grands écrivains qui parlaient des animaux comme cela aussi, Colette, en France. Et quelqu'un que Umberto Pasti ne connaît peut-être pas parce qu'il n'a pas été traduit ou parce qu'on lui rend pas suffisamment hommage, qui est Homéric, qui écrit sur les animaux des choses merveilleuses et qui a, Umberto Pasti, exactement cette empathie, oui. Cette solidarité. Il y a eu des textes d'Homéric il y a 2 ans, je crois, dans un quotidien du matin, où il parlait de tous les animaux qui habitaient dans une petite prairie à côté de chez lui. Et alors, il y avait l'hermine, et puis il y avait le ver de terre, et puis il y avait... Et sur chacun de ces personnages, on sentait l'amour et l'empathie qu'ils inspiraient à Homéric.
C'est vrai que Colette, pour moi, les pages de Colette sur les animaux ont toujours été parmi les plus belles pages de la littérature française. Ah, c'est magnifique.
Magnifique. Oui. Hein.
Magnifique.
Et nous ?
Alors justement, vous parliez, Frédéric Mitterrand, du précédent livre, hein, « Jardin, les vrais et les autres », qui était donc une collaboration aussi avec Pierre Le Tan, et qui sonnait comme une sorte de manifeste un peu ironique, hein, parce que c'était aussi assez drôle, de l'art du jardin, où vous évoquiez au fond ce que c'était que le bon jardin. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une morale, hein, du jardin, Umberto Pasti ?
Mais une morale, vous savez, comme dans toutes les choses, où il y a une intention esthétique, la morale est très présente, c'est évident. Tout ce qui a à faire avec la beauté, à faire avec la bonté, pour moi, il y a une absolue identification de principes. Et je trouve que c'est dommage que le jardin d'aujourd'hui devienne un truc de mode, un truc de styliste, un truc de... Mais c'est toujours... Je parlais tout à l'heure de ce monde où les hommes politiques ne lisent plus. C'est un peu ça, où tout devient de status symbole. Alors j'écris ce livre parce que ça me faisait chier que les gens soient aussi crétins quand ils pensent au jardin, aux couleurs, aux choses chic, que c'est le mot que je déteste le plus au monde, si vous voulez, chic.
Et pour ça, vous êtes très chic quand on vous voit comme ça, vous êtes très beau.
Ah, vraiment, c'est très gentil de votre part, merci.
Et là, je le renverse en compliment.
Merci. Et je le prends comme un compliment.
Bon, très bien.
Mais, les, jardins, mais les jardins ne doivent pas l'être.
Je le prends comme un compliment.
Dans le livre précédent, d'ailleurs, c'était intéressant parce que vous listiez les mauvais jardins ou faux jardins, les jardins porno, oui, les jardins de dames, les jardins de milliardaires et même les ronds-points. Vous écrivez, il vous faudra ouvrir les yeux, ne pas craindre l'échec et être prêt à souffrir. Qu'avez-vous souffert pour le vôtre, votre jardin, qui est installé dans un tout petit village au sud d'Azila, au Maroc, uniquement accessible à dos de mulet, dit-on.
C'était une galère incroyable. C'était un martyr de faire ce jardin. Une vraie galère, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a été, parce que c'est vrai, j'ai dû amener, je sauve les plantes qui sont détruites sur les chantiers par les promoteurs, par les constructeurs. Et donc, et tout ça était fait à l'époque à dos de moulets. Donc, on les chargeait sur des moulets avec les habitants du village. Mais c'est les mêmes habitants du village qui m'ont aidé. Et si vous pensez à un village marocain où, il y a, où les gens ont à manger, mais pas autre chose, pas plus que manger. C'est les mêmes gens qui m'ont aidé à sauver les animaux d'un fleuve qui était desséché par des connationaux à vous, qui ont choisi dans un endroit très très sec et très aride de faire des terrains de polo. Et donc ils ont détourné une rivière et volé toute l'eau de cette rivière pour faire des terrains de polo. Et c'est des Parisiens, c'est pas des trafiquants de drogue marocains qui doivent recycler de l'argent sale. Là. C'est des Parisiens chics, comme vous dites, élégants et qui font des très jolis foulards et des sacs et qui étaient déjà scellés à l'époque de Napoléon III.
On a bien compris que c'était là, je crois que plus, si vous dites en plus que les bois sont oranges, là on aura vraiment, vraiment compris de quoi
non,
il s'agit.
Une homonymie avec un dieu grec.
Manu?
Umberto Passi, oui, me fait penser
à qui?
Aussi,
Frédéric Mitterrand.
Mais c'est encore un autre compliment, un peu à Paul Bowles, c'est la manière dont il a préservé avec acharnement la musique marocaine qui risquait de disparaître, et comme il a aidé aussi tel ou tel apprenti écrivain tangérois à révéler en vérité de grands talents d'écrivain.
Mais c'est vrai, Paul était un ami à moi, on se voyait beaucoup avant, quand il était là. Et c'est vrai, c'était un homme qui souffrait énormément de ce que le Maroc devenait, bon, de la corruption, et surtout, non, pas de la corruption, il sortait beaucoup de la homologation, ça ne se dit pas en français, mais du fait que les peculiarités d'un pays, la globalisation, et que je pense, c'est ça. Oui. Alors, Paul voulait beaucoup sauver et perpétuer les traditions régionales, musicales, donc il s'est beaucoup occupé de la musique du Rif, de la musique Djebal, de la musique du Nord, etc. Parce que c'est vrai, dans ce qui se passe, ça devient tout pareil, on perd tout. On n'a pas perdu cette musique merveilleuse, parce qu'elle est du passé. Ça, c'était merveilleux. C'est dans le passé. Mais tout ce qu'il y avait jusqu'à récemment, tout se perd, tout devient la même, et badigeonné avec la même chose.
C'est pour ça que vous êtes collectionneur aussi, par ailleurs.
Tout ce qui peut se créer et qui est d'une grande richesse se trouve étouffé par le vacarme du consumérisme, en fait.
Un consumérisme qui, plus qu'un vacarme, est un peu le silence de la mort, moi, je trouve. Le vacarme, c'est du bruit, non, c'est du bordel. Non, c'est vraiment une terrible couche lourde et silencieuse et atroce.
Et quand même, le crapaud arrive à être heureux.
Le pauvre.
Enfin, les animaux doivent boire quand même pour être heureux, manifestement, oui, dans ces récits.
Alors, moins silencieux, comme à tous nos invités, Umberto Passi, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez suggéré celui-ci.
T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé.
Identification de ce son, Umberto Passi, pourquoi l'avoir choisi?
Parce que c'est une chanson qui me plaît beaucoup. Je déteste danser, mais quand j'entends cette chanson, j'ai toujours envie de danser.
Sur la chanson où...
C'est une chanson très romantique, très...
Il parle à qui?
Il parle de son singe qui vient de mourir. Je ne sais pas quel singe c'était, si c'était un chimpanzé ou... Mais je trouve ça d'une beauté, d'une chanson d'amour merveilleuse.
Sa fille a écrit un livre, la fille de Léo Ferré a écrit un livre sur le singe en question. Oui, oui.
Oui.
Et alors, le singe était tel, tel, tellement conscient de l'amour qu'il inspirait à Léo Ferré qu'il était devenu une sorte de marâtre acariâtre qui régentait la maison et la fille en a beaucoup souffert. En fait, comme elle aimait son père, elle ne lui a pas reproché cet amour-là. Mais c'est toujours pareil, les victimes, une fois libérées, deviennent pires que leur bourreau.
Ça, c'est vu de la fille, quand même.
La fille en a souffert, mais elle raconte ça très bien, mais sans animosité extraordinaire non plus.
Une dernière question, Umberto Pasti. Pierre Le Tan vous consacre un portrait dans son livre qui s'appelle « Quelques collectionneurs ». Il commence par le fait que vous êtes un collectionneur de Philippe Julian, écrivain, dessinateur très drôle, très érudit, très méchant et qui s'était suicidé en 77. Mais il parle surtout de votre collection de carreaux islamiques. Où est-ce que vous en êtes de cette collection et qu'est-ce qu'elle vous a appris ?
Écoutez, dans cette collection, je suis dans un cauchemar parce que je dois rendre un livre sur les carreaux islamiques à mon éditeur italien. Mais un livre facile, un livre pour les faire aimer par les gens qui n'aiment pas spécialement l'art islamique ou l'art tout court. Donc un livre divulgatif, je crois qu'on dit. C'est une chose qui me plaît. Les carreaux islamiques m'ont toujours énormément plu et me plaisent encore parce que je trouve que c'est un des moments où l'homme est rentré le plus dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain sur les carreaux islamiques, mais on rentre dans les tulipes, on rentre dans les girofles, on rentre dans les églantines et on y va très très près. C'est-à-dire c'est un peu la même expérience qu'on peut faire quand on marche dans une forêt et on s'épanche sur des plantes jusqu'à écouter la chanson des plantes. Le carreau islamique me donne un peu cette sensation hallucinatoire. Quand je rentre dans une mosquée, je ressens ces sons, ces vibrations qui deviennent des sons et qui me permettent d'aller très très près. C'est une chose presque obscène de pouvoir pénétrer une fleur ou un être vivant, mais qui ne peut pas se défendre, ne peut pas s'échapper. C'est une expérience presque sexuelle, plus que sensuelle. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les carreaux islamiques. Oui.
Tout est charmant, poétique, sympathique. C'est un homme délicieux.
C'est-à-dire, j'aime parler avec les fleurs, j'aime les écouter, j'aime parler avec les animaux, les écouter.
Et puis à cette époque-là, il avait encore ses deux petites canines sur le côté, qui fait qu'il avait vraiment l'air d'un vampire.
Merci à nos invités. Frédéric Mitterrand, alias Frédéric François, une adolescence apparue aux éditions Robert Laffont. Umberto Pasti, le bonheur du crapaud, c'était aux éditions Flammarion. Et je rappelle que l'album intégral des couturiers dédié à Haydn de Mozart par le couturier Cambini Paris, apparu sous le label Naïve. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Action. Il n'est pas toujours facile d'être un homme, moins encore d'être un homme pur. Mais être pur, c'est retrouver cette patrie de l'âme où devient sensible la parenté du monde.
Et demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, non, ce ne sera pas Frédéric Mitterrand, mais il en sera question avec le réalisateur Philippe Bassara, avec à ses côtés Marie Richeux de France Culture. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Benoît Lagane, Lucille Como, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Actualité culturelle supplément week-end, Benoît Lagane et Zoé Sfez. À la prise de son, Dophar Guérid et Pierrick Monsigny. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et bon week-end.